On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
La première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter là.
Des gens ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir.
Bonsoir.
Il est 19h04 et vous êtes à l'écoute du Canu Info du lundi. On commence tout de suite par les titres.
Et on commencera par une citation de la semaine, puis les traditionnelles brèves. Et on enchaînera à l'international avec un sujet sur le Soudan.
Au national, on verra que Airbnb est toujours une niche fiscale. On parlera aussi syndicat, en parlant un petit peu de conflits bureaucratiques à la CGT. Et pour finir, on parlera du suicide d'un salarié de RTE.
Et on finira au local avec un gros point sur le regain de l'activité des FAF à Lyon et même un peu partout en France. Et puis on parlera du projet de loi de finances qui prévoit la fermeture de 14 000 places d'hébergement d'urgence, dont 430 dans le Rhône.
Bon, c'était le sujet, hein. Spoiler. Et donc, on commence avec une citation de la semaine.
Et oui, alors la citation de la semaine, je vous la cite tout de suite. Vatican II a répandu le wokisme et la cancel culture dans le monde occidental. Et c'est une citation de Boualem Sansal dans un livre tout à fait étonnant qui s'appelle « Le grand voyage des écrivains à l'abbaye de La Grasse ». Alors l'abbaye de La Grasse est une communauté religieuse très conservatrice de chanoines qui vivent donc selon la règle augustine. Alors, il se trouve que cet édifice abrite dans lequel ils sont depuis 2004, était déjà occupé pour partie par une association littéraire créée par des militants d'extrême gauche. Et donc, depuis que la communauté a choisi de s'y installer, il y a plusieurs attaques qui ont été à déplorer dans les locaux de l'association, notamment l'aspersion de plusieurs milliers de livres avec du gasoil et du fioul en août 2007. Bref, une sacrée ambiance. Donc, cette petite communauté qui a des gros réseaux et pas mal de pognon a invité donc au printemps 2021 14 écrivains pleins de testo à venir passer 3 jours avec eux afin de publier cette bouse conservatrice. Alors au sommaire de ce bouquin, hein, des grands noms de la littérature réactionnaire parmi lesquels Sylvain Tesson, Frédéric Becbédé, Jean-Paul Enthoven, François-Olivier Gisbert ou encore Xavier Darcos, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. 3 jours donc et 3 nuits pour en finir par cette belle conclusion. Le wokisme, c'est l'œuvre du diabolique concile Vatican II.
Et puis on continue avec une petite nouveauté. On donne et on prend des nouvelles des bourgeois.
Et oui, on inaugure donc cette nouvelle rubrique pour vous donner chaque semaine des nouvelles de la bourgeoisie qui n'en finit pas de nous faire marrer. Ce matin, ce sont les étudiants de l'INSEC, oui, ceux-là même, rappelez-vous, qui demandaient à faire leur cours du soir en visio pour éviter de traverser la guillotière le soir l'hiver dernier. Ce matin, donc, cette belle bande de guélurons a donc proposé une blague de qualité en faisant intervenir les pompiers sur leur campus suite à une épidémie de vomissements. Alerte monoxyde de carbone, branle-bas de combat à l'INSEC. En fait, non, rien, ils étaient juste encore bourrés de la veille.
Oh.
Et puis on passe à nos traditionnelles brèves, tout de suite.
Et ça ne s'arrête pas. La société France Balayage et ses dirigeants ont été reconnus coupables jeudi d'homicide involontaire après la mort d'un salarié en 2016. Donc c'est Christian qui s'était endormi au volant de son camion après 14 heures de travail. Le tribunal de Beauvais, donc dans l'Oise, a condamné les pratiques de cette entreprise qui avait déjà fait un mort en 2011. Les dirigeants étaient condamnés respectivement à 8 mois de prison avec sursis et 24 mois pour le gérant. Et la société France Balayage a reçu une amende de 10 000 euros. Le jour de son décès, donc Christian faisait état de ses cadences infernales sans pause et avait ainsi dit au téléphone à son épouse « ils veulent ma mort ». On pense à lui, à sa famille, à toutes celles et ceux que le travail tue chaque jour. On rappelle qu'en moyenne, chaque année, près de 800 personnes perdent la vie au travail.
Et puis, autre information, l'industriel Imerys a annoncé aujourd'hui l'ouverture dans l'Allier de la plus grande mine de lithium d'Europe. Une mine de lithium, c'est une première en France. L'exploitation devrait commencer en 2028. L'objectif affiché est d'accélérer la transition énergétique et notamment de se passer des voitures à essence, tout en s'indépendantisant des pays exportateurs de lithium, dont principalement la Chine. La contrepartie, ça va être des kilomètres carrés détruits, dévastés, rendus inhabitables et toxiques. En effet, l'extraction du lithium nécessite d'utiliser d'énormes quantités d'acide sulfurique qui se transforme ensuite en arsenic. On l'a déjà vu avec des mines ouvertes en Argentine ou en Serbie, par exemple. Plus rien n'y pousse.
Et puis on se met un petit son parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'infos avant de passer au gros de l'émission. Vous connaissez, c'est ACS, c'est des potes et c'est le son capital.
Superficielle occupe les brèves. Les manifs ne les feront jamais reculer. La shit faut la remuer, faut brûler toutes les occultes.
J'ai vu dans leur jeu comme Esparo. La finance graille mais ne laisse pas le croc. Envie de vivre pour ceux qui s'engraissent pas trop. Big up à mes nombis, tous mes escargots. Dans ce monde c'est d'être avec ou sans pape. Qui te différencie de tes semblables, sans blague. J'ai pas mis mes valeurs dans le standard. Prends garde, j'tape dans le sol pour faire un scandale. Gandalf
1. On fait des emprunts pour 2. Acheter des actions 3. On touche les dividendes et 4. On rembourse ce qu'on doit 5. On retourne au 1. 6. On a toutes les actions 7. On répartit la thune et 8. On est Robin des Bois 9. On recommence tout mais là on rembourse pas 10. Coup d'état social et on supprime les naos. De la gannerie au conseil d'état 12. On rajoute leurs dons Kamehameha.
La peine capitale. Pour le capital. Et c'est capital. En lettre capital. Anti-capital. Ouais c'est capital. Lis le capital. En le capital.
Fake news, je l'ai vu dans ces news. Bolloré donné le la à l'Elysée Pépouche. Chien de garde, faites sonner les louanges. N'aboyez pas trop sinon vous finirez comme Assange. Les présentateurs résonnent comme des ventouses. Recette du flou, cerveau sur snooze. Certains prient pour demander quand ils mangent. Dommage, la télé a privatisé les anges.
Le canon de la loi vise les pirates. Bien sûr que l'homme est le pire des primates. Tu crois que je t'ai pas vu dire en scade à ton pote
ouais. Regarde Ron Weasley qui rappe. Et bien sûr qu'il y en a ras-le-bol, marre de voir les holdings grappiller le pactole. Que des produits nocifs dans nos camels m'amènent, ils veulent qu'on mange même comme moi, Paul.
Je les vois d'en haut, je suis dans ton carine. Promesse d'amélioration, c'est de l'ocarine. T'as posé le son, genre t'es le pro, mais fils, si t'es oppressif, j'ai mon cartarine. Des femmes parlant de sur moi, écoutez que des hommes qui parlent de voile. Cette époque est belle, ça fait longtemps que trop le croit. Blindez-moi pour la vie de vitrine, mais dis-moi qu'en est-il de celle qui les nettoie. Refrain. La peine capitale. Pour le capital. Et c'est capital. En l'aide capitale. Anti-capital. Ouais c'est capital. Lis le capital. Prends le capital.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'est le Canu Info du lundi. Nous allons tout de suite passer... Alors, la clé USB fait un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Oh.
International.
Et tout de suite à l'international, on ne change pas une équipe qui gagne un sujet sur le Soudan.
Et oui, 4 ans après les premiers soubresauts révolutionnaires au Soudan, le pays est encore sous tension. Alors, depuis le coup d'état du général Al-Burhan, il y a un an demain, donc le 25 octobre, les affrontements tribaux ne cessent de faire de nouvelles victimes. Depuis janvier, on dénombre 600 morts, d'après les chiffres de l'ONU, et 210 000 personnes qui ont dû être déplacées. Entre mercredi et jeudi dernier, il y a 200 personnes qui ont de nouveau trouvé la mort lors d'affrontements pour l'accès à la terre. Alors c'est des affrontements un peu complexes entre tribus, mais en gros les Aoussa, qui se sont mobilisés tout l'été à travers le Soudan, se disent discriminés par la loi tribale qui leur interdit donc de posséder des terres dans cette région du Nil Bleu où donc il y a eu ces affrontements. La question de l'accès à la terre, elle est fondamentale au Soudan. L'agriculture et l'élevage, ça représente presque la moitié des emplois et 30% du PIB. Ce dimanche donc, en réaction et pour dénoncer l'inaction du gouvernement, des milliers de manifestations ont d'abord essayé de forcer l'entrée du quartier général de l'armée. Puis, donc, comme ils n'ont pas réussi, ils se sont retournés vers le siège du gouvernement local et ils y ont mis le feu. Alors voilà, on fera sans doute un point un peu plus précis sur la situation au Soudan dans un dossier dans les semaines qui viennent, mais on pense à tous les camarades là-bas ou les exilés ici qui sont très nombreux.
Et on enchaîne.
National. Avec Airbnb, donc, puisque la location en Airbnb qui ne cesse de gagner du terrain en France, à tel point que nous sommes, juste derrière les États-Unis, le deuxième plus gros marché de la plateforme. Par un mécanisme qui est maintenant assez connu, cette méthode de location contribue largement à la raréfaction du logement pour les gens qui cherchent réellement à se loger à l'année et évidemment à l'explosion des prix. Puisque le prix à la nuit est bien plus élevé en passant par des locations courtes sur Airbnb qu'en louant avec un vrai bail classique, les propriétaires font leur choix assez vite et puis ceux qui louent encore normalement en profitent pour augmenter les loyers. Alors pourquoi est-ce qu'en France ça marche si bien alors que dans d'autres pays voisins le phénomène existe certes mais il n'est pas aussi spectaculaire? Eh bien c'est parce qu'en France les propriétaires ont droit à un énorme abattage fiscal par rapport à la location à l'année. Le tour de passe-passe consiste à faire passer les revenus de la location non pas pour des revenus fonciers mais pour une plus-value immobilière de particulier, donc ça c'est une appellation juridique. Dans les deux cas, c'est de la location, mais dans le deuxième, il est possible d'obtenir un abattement fiscal de plus de 70%, voire dans certains cas de ne pas payer d'impôts du tout. Et c'est tout à fait légal, il suffit que le logement soit meublé, ce qui est évidemment le cas dans un Airbnb. Bref, c'est un gros problème. Ça entraîne, on l'a vu, un énorme phénomène de gentrification des quartiers, un tant soit peu intéressant pour les touristes, puisque les seuls habitants qui peuvent encore y habiter doivent avoir plein de thunes. Et donc, parmi les amendements au projet de loi finance qui a été débattu jusqu'à récemment, les députés ont voté 3 amendements pour mettre fin à ce cadeau aux propriétaires, qui non seulement saignent les locataires, mais en plus ne font plus entrer d'argent dans les caisses de l'État. Mais vous le savez, mercredi dernier, le gouvernement a eu recours au 49.3, l'article de loi qui lui permet de faire comme si le Sénat et l'Assemblée n'existaient pas, de choisir les amendements qui lui plaisent, de supprimer ceux qui ne lui plaisent pas, et apparemment mettre fin à l'investissement le plus rentable du moment pour ceux qui en ont les moyens. Ça ne leur plaisait pas et ils ont rejeté ces amendements. En même temps, on se doute bien que ceux qui ont les moyens, c'est eux et leurs copains.
Et on continue tout de suite au National avec un sujet sur des embrouilles internes à la CGT.
Ouais, la Fédération CGT de la Métallurgie, la FTM-CGT, une grosse fédé bien puissante de la bureaucratie syndicale cégétiste, veut exclure le syndicat historique CGT de PSA Poissy, et ce depuis plusieurs années, notamment en utilisant des bonnes vieilles méthodes de Stahl, comme par exemple créer un nouveau syndicat CGT, monté de toutes pièces par la fédération et désaffilié de fait le syndicat historique CGT PSA Poissy. Mais pourquoi, me direz-vous, pourquoi la CGT Métallo s'attaque-t-elle, la Fédé CGT Métallo s'attaque-t-elle à Jean-Pierre Mercier et ses camarades de section, et ce alors même que l'ensemble forme une section ultra combative et profondément démocratique? Eh bien, c'est peut-être ça le problème. C'est que cette section est trop combative pour les bureaucrates de Montreuil, le siège social de la CGT. Selon Jean-Pierre Mercier, je cite, « Ils veulent reprendre la main parce que nous sommes des syndicats un peu trop indépendants, pas obéissants, sous les ordres des oukases de Montreuil. On fonctionne sur deux piliers essentiels qu'on ne laissera jamais tomber. L'ennemi numéro un, c'est le patronat et personne d'autre. Et nous fonctionnons sous la démocratie syndicale. C'est la base qui décide. Ce sont les deux choses qui les embêtent. » Jeudi dernier, 16 délégués syndicaux de la section passés en procès au tribunal de Bobigny, la Fédération de la Métallurgie voulant leur interdire de se revendiquer CGT sous aucune forme que ce soit, sous peine de 1000 euros par infraction. Le rendu de jugement aura lieu le 8 décembre, mais devant le tribunal, jeudi, il n'y avait pas loin de 600 personnes qui étaient présentes en soutien aux inculpés, dont de très très nombreux et nombreuses syndicalistes de la CGT. Il y avait tous les syndicats PSA CGT du groupe qui étaient représentés, mais aussi beaucoup d'autres syndicats d'usines automobiles comme Cléon, Lardy, Flins, Valenciennes, Strasbourg, je vous passe les marques, mais il y avait aussi des syndicalistes de la CGT de L'Oréal, d'AXA.
Les marques de syndicats ?
Non, les marques de syndicats, je vais vous les dire, mais les marques des usines automobiles. Il y avait aussi donc L'Oréal, AXA, Veolia, des représentants du Livre, des cheminots, de la RATP, de Keolis, des postiers, très majoritairement CGT, mais aussi pas mal de gens de Solidaires. Je vous passe les détails, il y avait donc beaucoup de monde. En tout cas, c'est une belle preuve de solidarité entre syndicalistes de combat, de la base, de la CGT et de combat tout court, comme quoi, entre la direction de la CGT et sa bureaucratie et la base, un gouffre existe bien. Et des camarades cégétistes, on le sait, les camarades cégétistes, on le sait, sont encore nombreux et nombreuses.
Et on continue avec la CGT, notamment après le suicide d'un salarié de RTE. Donc, c'était il y a une semaine. On a décidé de vous lire le communiqué de presse de son syndicat. On précise que les syndiqués de RTE avaient été, certains d'entre eux avaient été placés en garde à vue il y a quelques mois. Et c'est ce à quoi fait suite ce suicide.
Donc ce communiqué qui date du 19 octobre 2022, qui s'intitule « Réseau de transport de l'électricité, où va s'arrêter la descente aux enfers ?» Et ça commence comme ça. Lundi 17 octobre, un salarié de RTE a mis fin à ses jours. Ce technicien de 29 ans travaillait au sein du groupe Maintenance Réseau d'Anjou, basé à Saumur. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et ses proches. La CGT est de tout cœur avec eux. L'information a rapidement circulé dans la branche de l'énergie et au-delà. En effet, ce drame a eu lieu dans un contexte particulier, celui de la criminalisation de la grève. Ce salarié revenait d'un mois d'arrêt maladie à la suite d'une convocation à la police début septembre. Pour cause, une plainte déposée par la direction en lien avec les grèves du printemps. Injustement dénoncé par RTE comme l'un des auteurs présumés d'actions sur le réseau électrique, il en a été très affecté.
Cet événement tragique survient après un conflit très éprouvant où pendant plus de 3 mois, les agents du GMR Anjou se sont battus pour obtenir 5% d'augmentation de salaire. Ils n'ont reçu en réponse que du mépris de la direction. Celle-ci a même envoyé les CRS pour déloger les grévistes. À plusieurs reprises, la CGT a alerté sur les conséquences délétères pour le personnel de ce management répressif. Mais rien ne peut émouvoir la direction, qui dirige depuis plusieurs années l'entreprise d'une main de fer. À RTE, la direction considère les organisations syndicales comme des ennemis, et principalement les militants CGT qui sont stigmatisés et dénigrés, au point de porter atteinte à leur santé psychologique. Les interventions des inspections du travail et des médecins n'y changent rien. Aujourd'hui, ce sont les salariés eux-mêmes qui sont victimes de ce climat de terreur.
L'absence de dialogue social et la répression systémique à RTE sont de notoriété publique dans la branche des IEG. Mais le directeur, adoubé par le gouvernement et placé au centre médiatique de la transition énergétique, n'a visiblement de compte à rendre à personne. On croyait avoir touché le fond avec la mise en garde à vue de 4 agents de Valenciennes à la Direction Générale de la Sûreté Intérieure, pour des faits de grève n'ayant eu aucun impact sur l'alimentation électrique. Mais malheureusement, à RTE, le pire est toujours certain. Contre cette violence patronale, la riposte collective est la seule réponse. Les agents ne se laisseront pas intimider et rien ne pourra les faire taire.
Donc on continuera à suivre tout ça. Et surtout, les patrons, on vous voit. Et du coup, on écoute un son qui vous est dédié et qui s'appelle « Pas de justice, pas de paix ».
Voici les cadavres que la police ne veut pas voir, dissimulés au soir sous la pénombre d'un dépotoir. Un sacré beau paquet de dépouilles empilées, ça fait des monceaux de têtes renversées, les yeux et la bouche en cendres. Ça coule de grandes flaques rouges, hérissées de mains crispées qui cherchent encore à comprendre. Mais pas de lueur pour les cafards, a répondu l'ordre. Et le sang sèche et vire au noir, à l'abri des mémoires, dans le silence qu'il faut croire, complice des gyrophares. Des ponts armés aux trousses qui d'une pointe plongent la course dans le caniveau du non-lieu, où un juge voit les lieux et sans bruit, sans cri, se referme alors un de ces casiers métalliques de l'oubli, du déni, l'infamie, en robe de magistrat. La sainte loi, le droit bourgeois sur le front des victimes d'État, distribue les crachats. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Mille barricades éteintes sur des chemins recouverts de mille éclats de verre, où fument les carcasses éventrées de voitures calcinées. Ni la colère privée d'elle, ni le désespoir tout au bout. Des pierres et des cocktails balancés à genoux, ni les barres de fer tordues sur les boucliers de l'ordre gonflés de noir et de propre, ni les horizons barrés par les corbeaux et les hyènes, ni tous ces rêves aspergés de gaz lacrymogène, ni les gerbes fanées aux pieds des portraits assassinés, ni les phrases amères que mâchent de trop vieux patriarches usés par la chaîne, par le mépris et le temps, ni les larmes acides des mères, ni la sueur, ni le sang de la classe ouvrière. Rien ne se perd, rien ne se perd, tout se transforme, et le brasier crépite, et le brasier crépite, et votre putain de temple n'attend plus qu'on le dynamite. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Vous êtes à l'écoute du Canu Info du lundi. Il est 19h25 et on passe tout de suite à l'actualité
locale.
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 Et on commence tout de suite par parler du regain de vivacité de nos petits camarades de Nazillon à Lyon.
À Lyon et ailleurs, vous avez difficilement pu passer à côté, les fachos sont de sortie en ce moment. Il y a bien sûr l'actuelle particulièrement nauséabonde récupération politique et raciste du meurtre de la jeune Lola par tous les groupes FAF de France ainsi que par les deux principaux partis politiques d'extrême droite que sont le RN de Le Pen et Reconquête de Zemmour. Tous les débats recrachés comme d'hab par les médias mainstream sont polarisés autour ou plutôt contre l'immigration, et ce alors même que depuis le début de l'année, 50 infanticides ont eu lieu en France. Le cas de Lola n'est malheureusement pas unique, sauf que d'habitude les meurtriers s'appellent François, Marc ou Christine. Mais peu importe, l'extrême droite, de plus en plus en force de quinquennat en quinquennat grâce aux politiques racistes, xénophobes, islamophobes et autres des gouvernements successifs, cette extrême droite s'est engouffrée dans la brèche. Des rassemblements ou des manifestations ont notamment eu lieu à Paris, Rennes, Lyon, Metz, Saint-Étienne, Strasbourg et probablement ailleurs ce samedi. À Paris, on y retrouvait des personnalités politiques d'extrême droite, de premier plan, comme Zemmour, Nicolas Bay, Guillaume Pelletier ou encore Marion Maréchal-Le Pen, qui continuent tous et toutes à parler de francocide. La blague, ou pas ? Quelques centaines de personnes à Paris. Ensuite, à Rennes, ils étaient 70 rassemblés avec une banderole portant honteusement un slogan « White Lives Matter », détournant le « Black Lives Matter », mouvement créé aux États-Unis suite à un nouveau tué par la police, George Floyd. Heureusement, en face, toujours à Rennes, il y avait 150 camarades qui étaient présents pour leur montrer que la rue ne leur appartient pas. Des affrontements et des bagarres ont d'ailleurs eu lieu dans la soirée entre les deux groupes suite à l'attaque de Faf contre eux, des terrasses de bars LGBTQIA+. Et puis Lyon, bien sûr, toujours à la pointe des fachos de rue organisés. 200 FAF ont carrément fait une manif sauvage au départ de la place Carnot dans le 2e arrondissement jusqu'aux 24 colonnes où ils ont pris la parole. Leur slogan, immigrés dehors, immigrés assassins. Tout ça sous les yeux des flics qui, comme d'habitude, n'ont rien fait ou plutôt ont carrément laissé faire les FAF lyonnais. Une fois n'est pas coutume. En ce moment et à nouveau, ces FAF lyonnais se sentent pousser des ailes. Alors quelques exemples récents. Le 2 octobre, à l'issue de la Marche pour la vie, soit le rassemblement annuel lyonnais contre l'avortement, hein, rempli de cathos intégristes et de très nombreux fachos, qui a quand même rassemblé 600 personnes et dont les FAF lyonnais sont systématiquement au sein du service d'ordre, et bien ces derniers s'en sont pris à plusieurs personnes à l'issue de la manifestation dans les rues adjacentes. Le 14 octobre, à l'issue d'un rassemblement pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, hein, qui, on le rappelle, est le plus vieux prisonnier politique de France, qui était un révolutionnaire libanais pro-palestinien, eh bien, à l'issue de ce rassemblement, les FAF ont attaqué et pris en chasse à une vingtaine, outillés, plusieurs militants pro-palestiniens qui rentraient chez eux. L'un d'eux s'est fait attraper et violemment tabasser. Il a fini à l'hôpital. Le week-end dernier, on en a déjà parlé la semaine dernière, donc très rapidement, les FAF sont allés arracher des banderoles et des drapeaux des grévistes du nettoyage de la gare de Perrache et de la CNTSO.
Qui sont toujours en grève d'ailleurs.
Qui sont toujours en grève, on va en parler tout à l'heure, et la CNTSO qui soutient la grève depuis le début. Et puis bien sûr la manifestation donc de samedi à 200 personnes. En gros, les FAF sont à nouveau en roue libre. Ces FAF lyonnais, on sait d'où ils viennent, hein. Ils font partie soit de l'ex-baston social qui a été dissous, qui s'est recréé sous deux groupes différents qui s'appellent Audace Lyon et Lyon Populaire. Il y a également les Hools du stade, notamment les Mezza Lyon. Il y a l'ex-génération identitaire, un mouvement également dissous par le gouvernement qui a été recréé récemment sous le nom de Argos France. Il y a un très bon article de Street Presse dessus, n'hésitez pas à aller voir. Certains d'entre eux d'ailleurs sont passés en procès la semaine dernière à Marseille après avoir attaqué les locaux de SOS Méditerranée en 2018. Ils ont tous pris du sursis ou du ferme. Et puis on a les royalistes habituels comme l'Action Française dans ces groupes de face. Alors face à ces groupes, et pour finir, il ne sert à rien de quémander au gouvernement de les dissoudre, hein. Soit ils se reconstituent aussitôt sous un groupe, sous un autre nom, ou en tout cas ils continuent d'exister. Et la bourgeoisie n'hésite pas à utiliser les mêmes lois et les mêmes méthodes pour dissoudre ou tenter de dissoudre des groupes de camarades. Alors la lutte contre ces groupes, elle se fait sur le terrain idéologique, pratique et contre les politiques toujours plus racistes et sécuritaires du gouvernement. Pas de fachos dans nos quartiers, pas de fachés pour les cartes,
pour
les
pas de quartier pour les fachos
de Lyon. Voilà, et de France.
Et on continue tout de suite au local avec le projet de loi de finances qui va avoir des conséquences désastreuses.
Oui, voilà. Et donc, en 2023, le Rhône va perdre 430 places d'hébergement d'urgence. C'est acté. Comment ça se fait? Y a-t-il moins de personnes à la rue? En 2019, ils étaient près de 19 000 rien que dans la métropole de Lyon. Est-ce qu'ils ont disparu? Est-ce qu'ils ont trouvé un logement pérenne? Non, pas du tout. Le gouvernement a juste décidé qu'il allait compter moins de financement pour ces logements en 2023. À l'échelle du pays, pour cette année, c'est 193 000 places qui avaient été financées. Pour 2023, il n'y en a plus que 186 000. Et donc en tout, c'est bien 14 000 places qui viennent d'être supprimées nationalement. Et tout ça alors que Olivier Klein, notre ministre du Logement, se targue un peu mensongèrement d'avoir budgétisé 200 000 places. Pourtant, il y avait déjà trop peu de places d'hébergement auparavant. Pendant la crise du Covid, le gouvernement avait été obligé d'utiliser en urgence des hôtels pour héberger des personnes à la rue. Maintenant que les hôtels ont repris leurs activités, non seulement ces personnes ne sont plus logées, mais en plus, leur nombre va augmenter. Alors comment ça se fait que le gouvernement puisse faire passer ce budget tel quel alors qu'il y a de toute évidence un problème ? Eh bien, vous vous souvenez, tout à l'heure, on parlait du projet de loi finance et des Airbnb. Eh bien, le nombre de places d'hébergement d'urgence, il est aussi décidé dans cette loi, puisqu'en fait, on décide là du budget global du gouvernement pour l'année qui arrive. Et donc, peu importe ce qui peut être décidé par les députés et les sénateurs, puisque le gouvernement a eu recours au 49.3, et donc, ça passe. On souligne quand même que le gouvernement essaie vraiment honteusement de masquer ses fermetures, puisqu'il annonce haut et fort que, par exemple, le programme hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables se voit attribuer une hausse de 100 000 euros par rapport à l'année dernière. Wouhou ! En fait, par rapport à l'année dernière, il y a eu le Ségur de la santé et du social. Et donc, celles et ceux qui travaillent dans l'hébergement d'urgence, ils ont eu des augmentations de salaire, et c'est bien normal. Sauf que ces augmentations de salaire, elles s'élèvent à 148 000 euros. Résultat, les 100 000 euros de hausse de budget ne couvrent même pas cette augmentation de salaire, et donc c'est bien l'hébergement d'urgence qui va en pâtir. Bref, nous ne sommes pas dupes, rien n'est à notre avantage dans ce que le gouvernement fait passer avec le 49.3. On aurait aussi pu parler du rejet des amendements sur la taxation des super-profits ou de ceux qui visaient à pouvoir récupérer l'argent de l'évasion fiscale. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est des cadeaux pour les riches et uniquement pour les riches.
Et pour la troisième semaine consécutive...
C'est la rentrée des luxe. C'est la rentrée des classes. Toute l'école est en fête. C'est la rentrée.
Anticapitaliste. Anticapitaliste. Anticapitaliste.
Bientôt la révolution.
Et oui, en effet, alors c'est toujours un peu la rentrée parce qu'elle a du mal à partir, hein, cette rentrée des luttes, mais ça va venir. Et mardi dernier, c'était déjà les prémices puisque c'était la grève partout. Poussée par des secteurs productifs essentiels comme les raffineurs et les cheminots, les directions syndicales n'ont eu d'autre choix que de rejoindre l'appel d'abord lancé par le rail. Mardi dernier, donc, c'était grève interprofessionnelle. En France, près de 300 000 personnes ont manifesté. De notre côté, on a fait le tour des secteurs en grève et en colère à Lyon. On part tout de suite sur les piquets. Nous sommes mardi, le jour se lève sur l'horizon révolutionnaire.
Et tôt le matin, on a commencé avec les grévistes de la raffinerie de Fezin qui étaient évidemment en grève ce mardi 18 octobre et qu'ils sont d'ailleurs toujours puisqu'ils ont reconduit ce samedi avec un taux de grévistes de 90% dans les secteurs expédition et VMU, donc énergie, mouvement et utilité. Les réquisitions menées par le gouvernement lundi et à nouveau ce samedi les ont mis encore plus en colère qu'ils ne l'étaient déjà. On écoute Pedro de la CGT Total Fezin. Est-ce que tu peux présenter, nous dire où on est là ?
Bien sûr, alors Pedro Afonso, délégué syndical de la raffinerie de Fezin, donc continuité du mouvement sur Fezin, comme sur tous les sites français de Total Energy. Une grosse majorité de grévistes, on est aujourd'hui à 80% de grévistes sur le service expédition de la raffinerie de Fezin, malgré les réquisitions autoritaires et initiées par la doublette Monsieur Pouyanné et le gouvernement, bien évidemment. Donc aucun faiblissement des choses, contrairement à la volonté de faire taire les grévistes, de les forcer au travail, ils répondent par la meilleure des manières, le droit constitutionnel de grève.
Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé hier, les réquisitions, justement ? C'était le premier jour.
Ça a créé pas mal d'émoi chez les salariés, sachant que, par habitude, la direction prévient les organisations syndicales, ce qui nous permet de prévenir les salariés et leurs familles et les enfants respectifs pour pas qu'il y ait de difficultés quand les gendarmes viennent à la porte des salariés. C'est ce qui s'est passé hier. On l'a appris, malheureusement, au travers des médias. Donc effectivement, des salariés qui se sont retrouvés avec des gendarmes devant la porte, avec des enfants qui pleuraient, voyant leur papa partir au travail avec les gendarmes, avec des voisins qui se questionnaient. Donc effectivement, cette communication de Total qui est là tout simplement pour nuire aux grévistes et pour influer de manière négative, nous la condamnons de manière ferme, quoi.
Et qu'est-ce que aujourd'hui, donc c'est une journée de mobilisation interprofessionnelle, qu'est-ce que vous attendez de ce mardi 18 octobre ?
Aujourd'hui, c'est une belle date, une belle union de tous les travailleurs et travailleuses, effectivement, que ce soit dans le secteur pétrolier et chimique. Depuis 25 ans, on n'a pas eu cet impact qui est vraiment, vraiment énorme. Et puis aujourd'hui, bon, il y a la SNCF, il y a la RATP, il y a les centrales nucléaires, il y a les énergiciens, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de corporations qui vont rentrer dans la lutte. Le maître mot de ce jour et des jours à venir, c'est l'indexation des salaires sur les prix, quoi.
Et ben merci beaucoup et bon courage pour la suite de la lutte.
Merci.
Et petite précision, les syndicats jaunes, CFDT et CFE-CGC, qui sont majoritaires à eux deux chez Total, ont signé un accord dans le dos des grévistes le 15 octobre avec la direction de Total, consistant à ne revaloriser les salaires pour les ouvriers et les techniciens que de seulement 5%, c'est-à-dire moins que l'inflation et moins que la revendication de la CGT qui est 10%. Donc cet accord, la CGT l'a refusé. Malheureusement, et peu de temps après le mardi 18, certains sites ont lâché la grève, mais deux sont toujours fortement mobilisés, Gonfreville en Normandie et Fezin, avec comme revendication supplémentaire, parce que les deux sites ont tous les deux été impactés par les réquisitions, pas tous au droit de grève.
Réquisitions qui ont par ailleurs également impacté la sécurité des sites, puisque les raffineurs de Fezin ont publié un communiqué pour alerter sur les dangers que courait la raffinerie suite à ces réquisitions tous azimuts et suite à ces redémarrages. On vous invite à aller le lire. Et après donc ce petit tour du côté de la vallée de la chimie, nous on est parti du côté de la gare de Perrache. Sur la route, on est passé devant le lycée Récamier où les élèves ont tenté de bloquer, comme dans d'autres lycées comme Saint-Ex, La Martinière-Montplaisir, Lumière, Condorcet ou encore Chaplin. Et dans certains lycées, les blocages se sont même poursuivis toute la semaine. Il y a une trentaine de lycéens qui ont été interpellés durant toute la semaine dernière, mais on écoute tout de suite les élèves du lycée Récamier.
Du coup, on est au lycée Juliette Récamier et du coup, on a essayé de faire un blocus qui n'a pas fonctionné. Donc, on a décidé de faire un rassemblement pour manifester nos droits.
On mobilise pour un changement par rapport à Parcoursup et ce qui se passe par rapport à l'éducation nationale. On mobilise contre la précarité des étudiants et que l'État ne fait rien. On mobilise contre la réforme pour le professionnel, pour le lycée professionnel. Et on mobilise aussi pour les droits des profs, l'impact de l'inflation sur l'éducation nationale, ils font complètement rien pour nous, et voilà.
On a fait toutes les pancartes, les banderoles, et puis on a rassemblé pas mal de gens déjà.
On est là depuis 7h30 du matin, même plus, il y en a qui sont là depuis 6h30, pas. Là on va peut-être décaler à la manifestation qui est prévue du coup à Lyon, et puis à Lyon 3, et puis là on attend toujours, hein, on est toujours debout.
On a bien décidé par un algorithme, on a bien décidé par un algorithme, on a bien décidé par un algorithme, on a bien décidé par un algorithme.
Et on est allé ensuite, on a continué notre petit bout de chemin à la gare de Perrache, revoir les salariés du service de nettoyage arc-en-ciel dont on vous parlait tout à l'heure, en grève depuis 15 jours contre leur licenciement programmé par la métropole. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, on vous laisse écouter à nouveau ce qu'ils ont à raconter.
Alors vous êtes à la gare de Perrache, la gare routière à Perrache, et moi je suis le chef de site de la société arc-en-ciel sur place. On est en grève depuis lundi dernier maintenant, parce qu'à la dernière minute, on a su que la métropole de Lyon elle a changé l'appel d'offres et elle veut attribuer le service de nettoyage à une association d'insertion. Nous, on travaille dans une société de propreté, d'où on est protégé par l'annexe 7, l'article 7, dans la convention collective des sociétés de propreté, qui dit exactement, en cas de changement de société, les salariés restent sur place. La preuve qu'on a des salariés qui ont 33 ans ici, 25 ans, 12 ans, ça fait des années qu'ils travaillent sur place. Et la métropole de Lyon, elle a trouvé cette astuce pour exactement se débarrasser des grévistes de l'année dernière qu'ils ont dénoncé, leur harcèlement, leur ingérence, leur violence, etc., etc.
Du coup, là, vous êtes au 8e jour de grève, ça en est où des négociations ?
Bon, la première négociation, c'était les représentants syndicaux qui sont partis voir la métropole de Lyon. C'était très sympathique, face à un mur, exactement, qui ne veut rien savoir. Et c'est, leur réponse, c'est exactement, c'est comme ça et pas autrement. Et ils nous ont dit, la chef cabinet de le président de la métropole, d'aller directement à Pôle emploi.
Eh bien, merci beaucoup et bon courage.
Merci à vous et bonne journée.
Et toujours à la gare de Perrache, les cheminots, donc mardi, étaient bien mobilisés. On est allé voir une de leurs assemblées générales, donc du côté de Perrache. Voilà ce qu'ils s'y disaient.
Bon, les camarades, on va attaquer. Donc, quelques chiffres. Donc, à TGV, aujourd'hui, 43% de grévistes. À Ouigo, 33% de grévistes. À TER, pour Perrache, 56% de grévistes. Alors, ADC City, Saint-Étienne-Ambérieu-Rouen, on serait aujourd'hui à 63% de grévistes. Donc, je le répète, en 4 jours, pour faire poser les D2I et faire ce nombre de grévistes aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Donc, je commence. Si l'actualité nous commande de rompre avec la feuille de route du gouvernement, comme avec celle de l'entreprise SNCF, qui croit penser les maux de la crise en appliquant les vieilles recettes libérales. Nous ne devons pas nous détourner de notre démarche revendicative sur la question des salaires et du pouvoir d'achat des cheminots. Depuis le 6 juillet, je vous rappelle le 6 juillet, un cheminot sur trois était en grève. Nombreux sont donc les salariés qui depuis plusieurs semaines se mobilisent dans leurs entreprises avec un niveau de conflictualité sur les salaires rarement atteint ces dernières années. La pression monte de partout. Face à la faiblesse des salaires et au gavage des actionnaires. Les géants du CAC 40 ont engrangé 174 milliards d'euros de profits en 2021, du jamais vu. C'est donc bien la question du coût du capital qui est en jeu, et donc il faut une autre répartition des richesses. Autrement dit, ce sont les actionnaires qui coûtent cher, pas les salariés qui produisent justement ces richesses. Nous devons nous saisir de cette période et des mobilisations existantes dans le pays pour créer dans les entreprises et les administrations les conditions d'un rapport de force qui soit favorable à toutes et à tous. Si nous ne nous interdisons rien, mes camarades, pour créer les conditions du rapport de force, une bataille de haut niveau pour obtenir une autre répartition des richesses est nécessaire et gagnable. Face à la violence de ce gouvernement et face à la violence de ce patronat, nous ne sommes jamais aussi forts que quand nous luttons. La France est riche, mais les travailleurs sont pauvres. Il y a une contradiction que les responsables politiques et le patronat vont devoir vite résoudre sous peine de fortes mobilisations et d'actions de plus en plus dures. Sur ce, mes camarades, vive la lutte et continuons.
Et vive la lutte.
Et continuons. Et on continue puisque justement, c'est toujours ce mardi 18, également en force et en grève, les personnels des lycées professionnels mobilisés contre la réforme qui va directement les impacter, renforcer le pouvoir du secteur privé dans les établissements et faire des élèves encore toujours plus de la chair à patron. On écoute tout de suite un enseignant de la CGT d'un lycée pro.
Ça fait 100 ans que nos enfants ne travaille plus dans les usines. On n'apprend pas en étant alors pas touche à nos lycées. Alors pas touche à nos lycées.
On est vers le rectorat, notre autorité de tutelle, pour lui dire qu'on est absolument contre la réforme que lance Emmanuel Macron, puisqu'il est au pilotage depuis déjà trop de temps, pour finalement en fait renvoyer les gamins au travail. Donc après on va aller à la préfecture parce qu'il y a aussi la question des salaires. Mais au-delà de ça, c'est la question quel modèle de société on veut, qu'est-ce qu'on veut pour notre jeunesse. Ils nous disent toujours que c'est prioritaire, mais en fait ils veulent les remettre dans les usines, dans les entreprises, pour mal les former, mal les payer, mal les indemniser. Parce qu'il y a énormément d'accidents d'apprentissage, donc plus d'apprentissage, c'est plus d'accidents du travail. Voilà, mais ça ils le disent pas. Donc on est là en lutte parce que c'est inacceptable. C'est revenir sur ce qui se faisait avant 45, sur ce qui se faisait au début du 20e siècle. Et la société ne doit pas l'accepter parce que c'est pas le modèle de société qu'on peut vouloir pour les citoyens français.
Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer rapidement ce que c'est cette réforme ?
Alors, il faut savoir toujours qu'ils ont toujours un petit coup d'avance, ils essayent toujours petit à petit mettre en place une série de réformes. Là, ils en sont au point où l'idée, c'est, après avoir réduit la durée de formation de 4 à 3 ans en bac pro, l'idée, c'est de leur faire plus de semaines de stage, de ce qu'on appelle nous des périodes de formation en milieu professionnel, donc passer de 22 à 33.
en donnant des gratifications, j'insiste, hein, gratification, pas salaire entre 200 et 500 euros, on ne sait pas si c'est par mois. Sauf qu'en réalité, les élèves sont moins bien formés dans l'entreprise, ils s'insèrent moins bien, on va les payer moins qu'une misère, hein, deux fois moins qu'un salaire minimum, il y a plus d'accidents du travail. Et en réalité, ça voudrait dire que les entreprises formeraient mieux que l'éducation nationale. Donc c'est ça le service public en fait qui est proposé.
Là, on est sur une journée d'action interpro, mais vous êtes déjà mobilisé la semaine dernière.
On était là le 29 pour l'augmentation des salaires. On est là aussi aujourd'hui pour l'augmentation des salaires et contre la défense du droit syndical avec nos camarades des raffineries qui se sont fait réquisitionner de manière absolument illégale. En réalité, dans ce pays, il y a une vraie attaque contre le droit du travail depuis plusieurs années. Il y a une vraie attaque contre la liberté d'expression, la liberté syndicale. Et ça suffit, et en plus pour des salaires de misère.
Et comment tu vois la suite là ?
Bah, on va continuer à lutter, on va continuer à être vigilant sur les propositions qui filtrent dans les médias, les mails insidieux, les tentatives de déstabilisation, parce qu'en fait à chaque fois ils avancent par petites brides de parole comme ça, en disant mais non on n'a rien fait, bon, après peut-être qu'ils passeront par le 49-3, mais en réalité on va continuer à se mobiliser, on veut que tout le monde nous rejoigne, on a besoin des parents, on a besoin des élèves, on a besoin des collègues de matières professionnelles, d'enseignement général, parce qu'on ne peut pas continuer à devenir de plus en plus pauvres, de plus en plus soumis, et de plus en plus insulté.
Un diplôme en travail, une qualification. Nos élèves.
Et donc dans la manif, toujours, il y avait aussi pas mal d'AED en colère contre leurs conditions de travail, notamment dans les REP et REP+, c'est-à-dire les établissements classés dans l'éducation prioritaire. Ici, un camarade de la CGT Éduc nous explique.
Unité et solidarité, salariés, étudiants, chômeurs, retraités, nous avons tous et toutes les mêmes intérêts, lutter pour la dignité.
D'une manière générale, en particulier depuis le Covid, les AED, on a de plus en plus de boulot, il y a plein de tâches qui nous sont revenues, qui ne dépendaient pas du tout de nous avant. Et là, du coup, on s'est beaucoup mobilisé ces dernières années, on a eu des avancées, on a eu le CDI qui est ouvert pour nous maintenant, et en REP et en REP+, il y a le Conseil d'État qui a condamné le gouvernement à nous verser ses primes. Là-dessus, le gouvernement fait tout pour nous empêcher d'avoir un accès réel à nos droits. Sur les CDI, ils ont tout fait pour que le décret d'application passe qu'au mois d'août et que du coup, on ne puisse pas réellement en profiter dès cette rentrée. Et sur les primes REP et REP+, le dernier délai passé par le Conseil d'État, c'était le 12 octobre. Là, et le gouvernement ne nous a rien versé du tout pour l'instant. Il était même prévu dans des réunions techniques au ministère qu'en fait, ils nous payent qu'en 2023, qu'on soit payé moins que ce qu'on devait l'être et qu'on n'ait pas droit à une part des primes qui s'appellent les parts modulables. Donc là, dans toute l'académie, on s'est pas mal mobilisé pour ça. On a eu une commission paritaire directement avec le rectorat. Et là-dessus, la directrice des ressources humaines du rectorat s'est engagée à ce qu'on touche les primes REP+, qu'on les ait de manière rétroactive à partir du 12 octobre, qu'on ait des parts complètes, c'est-à-dire autant que les profs, et qu'on ait des parts modulables en plus. Bah ça, pour les AED, c'est une première victoire qui montre que quand on est mobilisé tous ensemble, on arrive à obtenir des choses concrètes, mais on a beaucoup, beaucoup d'autres problèmes. Déjà, c'est une revalorisation de tous nos salaires qu'on demande. C'est pas juste les primes REP+. On demande aussi d'avoir un vrai statut et de plus pouvoir être jeté comme ça, comme des malpropres à la fin de l'année sans aucune justification. Et puis ce qu'on réclame d'une manière plus générale, c'est de travailler moins et d'avoir moins de missions, de nous retirer toutes ces missions qui nous ont été ajoutées depuis le Covid et qu'on ait plus de moyens, plus de collègues pour nous aider là-dedans.
Et petite surprise, ce mardi, il n'y a pas eu d'interview, mais on va vous la raconter. La tentative de réoccupation de la présidence par les étudiants et les sans-facs de Lyon 2. On vous en a déjà pas mal parlé également. La présidence de Lyon 2 a été occupée pendant une semaine pour forcer l'inscription des fameux sans-facs, les exclus de Parcoursup d'une part, hein, l'outil de sélection à l'entrée de l'université mise en place sous le premier quinquennat de Macron, et les étudiants et étudiantes étrangers et étrangères d'autre part, qui se voient demander des frais d'inscription dépassant largement les 2000 euros, voire les 3000 euros, et qui sont donc bloqués aux portes des inscriptions. Il y a une semaine, Nathalie Dompnier, présidente décidément de plus en plus à droite, avait fait expulser l'occupation par les forces de l'ordre. Mardi, après la manif des lycées pro, les étudiants et étudiantes, les sans-fac et des soutiens venus de différents secteurs ont tenté de réoccuper la présidence.
On les entend d'ailleurs derrière toi.
Et ouais, c'est bien fait. Mais c'était sans compter sur Nathalie Dompnier et la préfecture qui ont durement...
Je crois qu'ils arrivent à rentrer là.
...réprimé la tentative, interpellant deux personnes au passage qui passeront en procès... En 2024, pour l'un d'entre eux, on vous donnera des nouvelles à la suite de ça. Voilà, ça c'était la tentative de récupération de la fac.
On écoute un petit peu les étudiants qui envahissent donc la présidence de Lyon 2.
On se disperse les camarades parce que les filles vont bientôt arriver.
et qui se disperse. Et pour finir cette grosse journée marathon, on est passé au rassemblement organisé par les grévistes de l'Opéra de Lyon, qui n'en finit pas de subir des coupes budgétaires. La détermination était à l'ordre du jour. On écoute une des grévistes.
Alors nous, à l'Opéra de Lyon, aujourd'hui, avant de savoir que ce serait un mouvement national, on s'était mis en grève. On a fait aujourd'hui une grève avec tous les salariés permanents et intermittents Ville de Lyon. Parce que comme vous tous, le pouvoir d'achat il diminue de plus en plus. Alors nous, à l'Opéra de Lyon, en plus, on a perdu beaucoup de subventions dans les dernières années. On a perdu 500 millions de la ville et 500 millions d'euros de la région récemment. Voilà. Et notre direction n'a pas eu l'intention première de baisser son rythme de croisière. Donc forcément, sur qui ça va se répercuter ? Sur les salariés. On a commencé il y a un mois nos négociations salariales à l'Opéra de Lyon et la direction n'a rien trouvé de mieux à faire que de nous proposer 0 euro d'augmentation pour cette année. Dans un contexte d'une année 2022 avec 5,6% d'inflation, c'était un petit peu fort de café pour nous de nous proposer 0 euro d'augmentation. Deux semaines plus tard, la direction est revenue un petit peu sur ses paroles en nous proposant une augmentation d'environ 1,8% pour les permanents uniquement. Rien n'est prévu pour les intermittents. Et les intermittents, ils font partie de l'opéra, c'est leur maison aussi. Et leurs taux n'ont pas été actualisés depuis bien longtemps. Ils subissent l'inflation, comme tout le monde ici, et ils ont besoin que leurs taux soient revalorisés. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Opéra de Lyon est mobilisé. Et on envoie tout notre soutien au Théâtre de l'Odéon, à Annecy, à toutes les institutions qui se mobilisent. C'est hyper crucial parce que l'inflation, elle va continuer pendant 2-3 ans à ce rythme-là. Donc cette année, il faut vraiment réfléchir à quelque chose avec toutes vos institutions respectives parce qu'il y a vraiment un virage à ne pas louper cette année. Voilà. Merci à tous.
Et le lendemain, mercredi, donc le lendemain matin, on s'est rendu au piquet de grève et à l'AG des cheminots de Pardieu qui avaient reconduit leur grève comme à leur habitude et qui ont donc suivi l'appel national. On écoute deux des grévistes.
Je suis secrétaire du syndicat de site Ludinon de Pardieu, donc c'est un syndicat qui règne sur tous les tours et les maîtrisés cadres en fait cheminots sur le quartier. Il y a un deuxième syndicat qui est représenté aussi aujourd'hui, c'est le syndicat de la gare Pardieu. Donc il y a deux syndicats qui sont là aujourd'hui. Pourquoi on est là en grève depuis hier ? C'est pour plusieurs raisons. La première raison, déjà, c'est suite à l'attaque qu'il y a eu envers nos camarades CGT des raffineries qui ont été réquisitionnés. Le gouvernement a utilisé la loi contre eux au lieu d'utiliser la loi contre le patronat pour augmenter leur salaire. Donc c'est par solidarité qu'on est là pour eux. Mais on est là aussi en grève aussi aujourd'hui parce que nous aussi, on a des problèmes de salaire à SNCF depuis longtemps. Ça fait depuis le 6 juillet qu'on se bat, qu'on a fait plusieurs étapes de grève et d'interpellation de DET, de dirigeants pour avoir des vraies augmentations de salaire. Depuis 2014, il n'y a eu aucune augmentation de salaire sauf depuis le 6 juillet avec 1,4% d'augmentation, ce qui est rien comparé à l'inflation de 12% depuis 2014. Aujourd'hui, il y a plus de 18 000 cheminots qui ont un traitement en dessous du SMIC. En CGT, on a des revendications construites avec des cheminots qui sont claires et précises. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir une grille salariale collective pour tous les cheminots de la branche et pas que la SNCF, de toutes les entreprises privées de la branche, pour éviter le dumping social se fasse par les salaires. On a appelé pour le 18 octobre à une grève sans se mettre de limites, c'est-à-dire carré, reconductible et tout ça. C'est pour ça qu'il y a certaines AG qui ont arrêté et d'autres qui ont continué. Par rapport à notre ressenti personnel, notre ressenti sur nos chantiers, nos ressentis dans nos métiers. Voilà, nous, l'AG de Pardieu a décidé hier de reconduire ce qu'aujourd'hui pour voir si on peut tenir et voir continuer. Mais une chose qui est sûre, c'est que la Fédération CGT des cheminots va poser une DCI bientôt pour construire un mouvement plus fort et plus dur dans les jours à venir, les semaines à venir, pour essayer de faire plier l'entreprise et le patronat.
Oui, alors moi je suis Sally, je suis contrôleuse en gare de Lyon-Pardieu. Je vais parler que pour ma résidence. Nous, hier, les contrôleurs de Lyon-Pardieu, on était à 90% en grève. Aujourd'hui, on est encore 78%. On a voté la reconductible. Franchement, si on en est là aujourd'hui, c'est que vraiment, vraiment, on n'en peut plus, quoi. On est au taquet. On a un traitement de base. Nous, au statut, on a vraiment un traitement de base qui est très bas. Après, tout le reste de notre salaire, c'est des éléments variables de salaire, c'est-à-dire la prime de travail, travail samedi, dimanche et jours fériés, les horaires de nuit, les découchés, etc. Mais si tu enlèves tout ça, ton salaire, on est en taux horaire en dessous du SMIC. Il y a ça et aussi nos conditions de travail. Il nous manque plus de 30-35 25 contrôleurs. Ça veut dire que nous, on fait des journées à rallonge. C'est même plus des journées qui sont prévues au roulement. Moi, je suis agent de réserve. On me monte des journées de toutes pièces. Je peux faire 10 heures d'amplitude, hein, ça reste dans les clous. 9 heures de travail, c'est-à-dire tu montes dans un train, tu descends d'un train, tu montes dans un train, tu descends d'un train. À quel moment tu manges, à quel moment tu vas aux toilettes. Voilà, c'est aussi ça. C'est aussi nos conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles. Là, vraiment, on n'en peut plus, quoi. C'est vraiment too much. Et j'aimerais bien que tous les salariés puissent entendre ça, parce que je pense qu'on est tous dans le même bateau, quoi. Après, oui, les cheminots, vous êtes des privilégiés. Ben non. Nous, si on n'a pas les éléments variables de salaire, si on ne se tape pas les samedis, les dimanches, les fériés, les nuits, pendant que vous êtes en vacances, et nous, on travaille du 1er janvier au 31 décembre. Hein. Moi, j'ai un samedi, dimanche tous les 6 semaines. Donc, au niveau de ma vie sociale, comme disait Muriel Robin, oui, j'ai une vie privée. Privée de tout, mais privée quand même. Et ben ça, il faudrait qu'ils l'entendent.
Voilà, donc vous venez d'entendre deux grévistes cheminots. Malheureusement, devant le peu de secteur en partie parti en véritable reconductible, hein, les cheminots de Pardieu ont préféré ne pas griller toutes leurs cartouches et s'en garder sous le pied pour les mois à venir. Mais on reste bien dans une phase très offensive de la classe ouvrière. Après Arkema, les raffineries toujours en grève, Renault Trucks, les cheminots, on en a déjà parlé. Eh bien, il y a plus récemment l'AIA, l'atelier industriel aéronautique à Clermont-Ferrand, qui était en grève la semaine dernière. Airbus à Toulouse, l'agence de Brix dans la Manche, Air Liquide dans l'Isère, et on en passe partout. La revendication des raffineurs est reprise. Plus 10% d'augmentation pour faire plier le patronat. Une seule solution, grève générale reconductive, et partout, blocage et sabotage.
Et on va finir cette émission par un agenda rapide. Et aujourd'hui, cette semaine, l'agenda, il commence mercredi.
Et oui, alors on en a beaucoup parlé ici, mais depuis plus de deux semaines, les agents de la propreté de la gare routière de Perrache sont en grève pour les soutenir ce mercredi à l'annexe de l'espace communal de la Guillotière au 27 rue Salomon-Rénac. Il y aura donc une soirée de soutien en présence de Rachel Kéké. Alors Rachel Kéké, on en a aussi beaucoup parlé ici. C'est une des grévistes de l'Ibis Batignolles, donc qui avait fait plus d'un an de grève en 2019. Donc elle vient et elle est devenue députée depuis d'ailleurs, vous n'êtes pas sans le savoir. Donc elle viendra ce mercredi à l'annexe de l'ECG pour présenter le film qui est issu de cette grève, donc qui s'appelle La révolte des femmes de chambre. Il y aura ensuite une cantine de soutien et tous les bénéfices iront à la caisse de grève des grévistes de Arc-en-Ciel.
Dont on a déjà quand même pas mal parlé.
Longuement parlé. Et l'agenda se poursuit directement à vendredi, où vous pourrez aller à la présentation du livre 10 questions sur l'anarchisme. C'est l'Union communiste libertaire qui vous propose ça. Vendredi 28, c'est à 19h. C'est en présence de l'auteur, dont j'ai même pas marqué le nom. C'est à la librairie La Plume Noire, au 8 rue Diderot. On passe ensuite à samedi, où il y aura la permanence InfoShop à la Lutine, comme tous les samedis. C'est de 14h à 18h. Vous pouvez acheter des livres, des fanzines, des disques. Il y a du café gratuit et des gens avec qui discuter. La Lutine, c'est au 91 rue Montesquieu. Et pour finir, dans le cadre de la Biennale Trace, il y a une table ronde qui s'intitule « Colonisé par la langue ». C'est à l'occasion du spectacle Colonisation de Salim Jaferi. Mais la table ronde, ce sera avec Cécile Canu, qui a un nom très sympa. C'est au Théâtre des Célestins, c'est gratuit et c'est 4 rue Charles Dullin, Lyon 2e.
Quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine.
A priori, plutôt dans 15 jours. Eh oui, pas d'émission la semaine prochaine. C'est très triste. Mais on vous laisse quand même tout de suite avec une autre émission. On vous dit à dans deux semaines. Allez, à dans deux semaines.
Vous êtes bien toujours à l'écoute de la plus rebelle des radios. Alors on a fait une petite session hard rock un peu occulte avec des chanteuses. Donc on a eu dans l'ordre Blood Ceremony et le morceau Goodbye Gemini. Ensuite les Québécois de Cauchemar avec D'encre et de sang. Et à l'instant c'était Avatar.